premier épisode du podcast du Lama Project. Le Lama Project, vous le savez probablement, c'est un laboratoire d'idées qui contribue à la transition des modèles économiques des stations de ski. Avec ce podcast, on voudrait assez simplement partager avec vous nos conversations avec des acteurs du monde des stations, tendre le micro à des gens qu'on entend peu et tendre le micro aussi à des gens qu'on entend beaucoup, mais à qui, nous semble-t-il, on pose toujours les mêmes questions. Le but de ce podcast est d'enrichir notre vision du monde. Au Lama, il est bon de le préciser, nous ne sommes pas contre le ski, contre les stations de ski et contre les remontées mécaniques. Tout au contraire. C'est là d'où on vient, c'est notre culture, c'est notre passion. Et on revendique le droit d'être des alliés critiques de ce business. Notre objectif, notre humble objectif, c'est d'enrichir le débat et d'inciter à l'action. Alors partons tout de suite pour ce premier épisode dans la petite station de Métabier, dans le Jura. Merci de nous recevoir, Olivier Erard. Alors, au Lama Project, on essaie de comprendre un peu comment cette fameuse transition ou transformation s'opère pour les stations de ski. C'est vrai que finalement, la prise de position la plus convaincante, la plus claire, est venue non pas d'une grande station de Tarentaise, mais d'une petite station du Jura, Métabier, qui a décidé qu'entre 2030 et 2035, il n'y aura plus de ski alpin à Métabier. Qu'est-ce qui fait, Olivier, que ce soit à Métabier que ce genre de décision assez forte soit prise?
Déjà, je pense qu'on y était sans doute plus contraint qu'ailleurs, puisqu'on est en moyenne montagne. Donc, c'est vrai que l'enjeu climatique est une des trois crises auxquelles on doit faire face, que notre modèle de station doit faire face, est le plus prégnant. Hein, nous, on est entre 900 et 1400 mètres, donc c'est vrai que ces questions-là étaient... on les vit de pleinement. On était un peu au pied du mur, hein, avec des enjeux de renouvellement de remontée mécanique. Je crois que c'est parce qu'on voyait le mur arriver, finalement, qu'on a été contraint on s'est pas dit du jour au lendemain, on rentre en transition. Non, on a pris les sujets les uns après les autres, et c'est a posteriori qu'on se rend compte qu'effectivement, tout ce qu'on a mis en place dans notre aventure, sont des éléments qui nous permettent de dire « Ah oui, tiens, c'est un process de transformation, finalement beaucoup plus profond que ce qu'on imaginait sans doute. »
Vous utilisez le mot de transformation plutôt que de transition ?
C'est un petit peu un problème avec le mot transition. Maintenant, moi, je mets derrière transition la transformation, parce qu'une transition, c'est un déplacement d'un point A à un point B. Et le point B, aujourd'hui, on ne le connaît pas. On est plutôt dans un process de transformation.
Comment est-ce que vous décririez le modèle économique ?
Alors, moi, j'imagine que ce modèle, aujourd'hui, il est encore très, très empreint du plan neige de 1964. Les choses ont bougé, mais fondamentalement, philosophiquement, l'emprise et l'héritage est quand même très marqué, c'est-à-dire ce domaine skiable qui structure avec l'immobilier qui va avec, crée une polarisation qui est très très forte, qu'on le veuille ou non. Même ce modèle-là de tourisme en montagne, il a eu des effets même sur des territoires qui n'ont jamais connu de station, puisque en fait toute la filière professionnelle s'est bâtie autour de ce modèle des années 60. Tout ce qu'on vit de tourisme en montagne, à mon avis, vient de là. L'impulsion, elle date des années 60, c'est-à-dire un modèle qui finalement est aterritorial, comme le dit Vincent Vlès, il s'est construit de la même manière partout, sans prendre en compte les spécificités de chaque territoire. Ce territoire-là, et chaque situation est différente, mais ce territoire-là n'a pas forcément rééquilibré les choses ou pris la main sur le modèle station, et que c'est la station qui a fixé le cap touristique pendant 50 ans, et peut-être qu'aujourd'hui, en tout cas sur des territoires comme le nôtre, le besoin se fait cruellement sentir de rééquilibrage.
Alors, quand vous dites le besoin se fait cruellement sentir, de quelle façon ?
Tout simplement, on en discutera parce que c'est pas simple, mais parce que quand on commence à appréhender la fin du ski alpin, on se rend compte que rien ne peut remplacer le ski alpin pour rembourser des remontées mécaniques ou tout l'équipement qui va avec. On parle de VTT, nous on est très bon en VTT, Métabier est reconnu là-dessus, on a un marché qui arrive à maturité, on sait ce que ça vaut, on sait ce que ça rapporte, et on peut le dire, le ski alpin, rien ne peut le remplacer, si on veut garder des remontées mécaniques. Donc quand on projette la fin du ski alpin, nous ce dont on s'est rendu compte, c'est que le chiffre d'affaires qu'on allait générer sur le domaine ski alpin, il allait être divisé par 4. Donc à partir de là, on est sur un pôle qui va vers une décroissance forte. Et le fait de s'en rendre compte assez tôt nous permet de nous dire l'enjeu, c'est d'aller chercher sur le territoire d'autres forces économiques, et pas forcément de l'investissement, parce qu'on mise aussi sur le capital humain. C'est vrai que quand on achète un forfait de ski, c'est 60, peut-être 70% déjà de coûts matières, de coûts matériels, d'équipement, et peut-être que 30-40% de coûts humains. Et que finalement, peut-être que c'est là-dessus qu'on a une progression aussi de croissance. On pourra y revenir, mais en tout cas, c'est cette nécessité à un moment donné. Si on veut garder une économie touristique sur notre territoire, on ne peut plus la regarder sur le seul périmètre du domaine skiable de la station, mais on doit le regarder à une échelle beaucoup plus vaste, celle du territoire.
Alors, dans votre travail qui vous amène aujourd'hui à annoncer la fin du ski alpin sur votre station en 2030-2035, quels ont été les principaux obstacles auxquels vous avez eu à faire face?
Le premier obstacle, c'est d'admettre que ça pouvait s'arrêter, et surtout qu'il fallait arrêter d'investir lourdement sur le ski alpin si on ne voulait pas arriver à une situation où notre endettement ou nos charges fixes liées au fonctionnement de cet outil qui coûte énormément. Quand il fonctionne, il rapporte, mais quand il commence à tousser ou à moins bien fonctionner, il peut coûter très très cher. Donc c'est d'admettre qu'on n'avait plus les moyens de faire des nouvelles remontées mécaniques. Donc ça, c'était le premier deuil qu'il a fallu passer. Le deuxième obstacle, ça a été d'imaginer, de se mettre d'accord sur ce qu'on voulait de notre montagne après la fin du ski. Alors je dis que c'est un obstacle, mais finalement c'est allé assez vite, c'est un consensus un peu naturel où quand on va chercher vraiment le fond chez les gens de la montagne, finalement ils reviennent à des valeurs assez simples, et c'est positif d'ailleurs, je trouve, et de se dire si on arrive à vivre finalement une économie touristique tout en reconquérant la nature de notre montagne, et c'est peut-être un beau challenge qu'on peut relever. Donc on est parti du principe qu'après le ski alpin, on allait rendre la montagne plus naturelle, voilà, et qu'on n'était pas dans une démarche d'aménagement ou de diversification à tout prix liée aux remontées mécaniques pour faire croire qu'on allait les faire perdurer même après la neige. Enfin voilà, ça c'est un truc où on n'est pas allé du tout. On a regardé les tyroliennes, etc., mais non, on a dit c'est pas ce dont on a envie.
Ce qui est intéressant, c'est que dans votre bouche, à l'inverse des décideurs et des porte-parole de la montagne qui parlent de transition sans parvenir réellement à l'engager, il y a pas ces mots de résilience, bienveillance, diversification, station 4 saisons. Vous n'utilisez jamais ces mots-là?
Non, moi effectivement, j'utilise plutôt le mot de sens, de transformation, de partage, de vision commune, d'intelligence collective, de coopération. Voilà. En fait, je suis plus sur le registre les moyens et la méthode plutôt que le résultat, puisqu'en fait, on n'est pas dans une transition, on est dans une transformation, on ne sait pas où on va. Donc, ne cherchons pas des solutions toutes faites qui tombent du ciel et trop rapides. Et donc, regardons ce qu'on peut faire là, à l'instant T, plutôt que de se projeter dans des solutions. Et j'ai échangé sur les questions de la transition avec des collègues de communautés de communes. Et suite à ces échanges-là, ces techniciens m'ont dit « Ah, ça nous fait du bien de dire qu'il y a d'autres voies que la diversification, le tourisme 4 saisons qu'on entend, qu'on nous rabâche à tort et travers ». Et qu'on nous présente effectivement comme le modèle qui va sauver. Alors que nous, on ne le sent pas. Voilà, c'est comme ça qu'ils nous disent. Et j'aime bien ce registre de la sensation, de l'intuition, qui renvoie, je pense, à une vérité plus juste de ce qu'on vit, de ce qu'on est sur notre montagne.
Quelle pourrait être, je sais que vous ne voulez pas que votre action ici à Métabier, votre action collective, serve d'exemple, mais quel pourrait être un conseil, ou en tout cas, quelle pourrait être une première étape pour des plus grandes stations qui, elles, sont encore loin de l'obligation d'évoluer, puisqu'il y a encore de la neige, il y a encore de la rentabilité, il y a encore des touristes.
Ouais, vous évoquiez les difficultés qu'on a rencontrées. L'une des difficultés, c'était aussi cette vérité partagée de notre situation et de d'où on en était. Je pense que sans doute l'un des premiers pas, c'est de partager une vérité station, territoire, le véritable poids économique du domaine skiable, de la station sur son territoire, ses impacts. Si le modèle apporte plus de contributions que de perturbations, on peut comprendre qu'on le fasse perdurer. Mais c'est aussi regarder les fragilités du système, d'essayer de les objectiver, notamment sur des enjeux de ressources en eau, sur des enjeux de foncier, de mobilité, voilà, et d'essayer d'appréhender les choses de manière la plus objective et possible, de partager une réalité. La vérité en soi n'existe pas, c'est construire une réalité, parce qu'on sait très bien la difficulté à agréger des chiffres. La facilité, c'est peut-être d'aller vers trop de choses chiffrées trop vite. C'est pas forcément très propre comme approche. Je pense qu'il faut pas vouloir imaginer une réalité partagée propre. Il peut y avoir des failles dans ce qu'on propose, mais si c'est partagé, moi je vous donne l'exemple qu'on a eu sur l'appréhension des effets du changement climatique chez nous. C'est pas l'étude ClimSnow de Météo France qu'on a fait en 2020 qui nous a fait accepter qu'on allait vers une fin du ski à l'horizon 2030-2035. On était convaincus dès 2017, puisqu'on a en interne fait un travail en rassemblant les données météo qu'on avait, en interrogeant nos nivoculteurs, nos dameurs, et à se construire un scénario qui nous semblait consenté. Voilà, on est sur ce niveau-là, mais qu'on a partagé. Et du coup, à partir de là, c'était vrai, quoi. Pour nous, c'était vrai. Et Météo France n'a fait que confirmer le truc. Donc, voilà, je pense que c'est une étape importante pour tout le monde, c'est se faire cette idée d'une certaine réalité.
Oui, c'est ce que vous appelez des éléments de récit, c'est presque un pitch, c'est-à-dire une histoire commune. Et ça, avec le recul, pour vous, ça a été un des moyens de passer une étape.
Oui. Et c'est vraiment avec le recul, parce qu'on n'a jamais orchestré, mécanisé tout ça, mais je me rends compte qu'effectivement, si on a réussi à faire ces deuils-là, c'est qu'on a à chaque fois... j'aime bien cranter les étapes et on les a crantées avec des mots, avec des symboles. Alors c'est des choses qui paraissent un peu futiles ou un peu bizarres, mais je vous donne un exemple. Notre plan pluriannuel d'investissement qui nous permet le maintien du ski, on l'a appelé le plan pluriannuel d'amélioration des remontées mécaniques et des équipements. Ça fait un acronyme qui fait PARM. Donc voilà, pour les élus, c'est un moyen mnémotechnique facile. Quand le PARM est devenu courant dans le langage de nos élus, on savait que c'était intégré cette idée de maintenir, avec des investissements raisonnés, le ski autant que possible, et que l'horizon 2030-2035, c'est sans doute l'horizon ultime, quoi.
En parlant de mots, il y en a un, bien évidemment, qui domine les discussions dans le business du ski alpin, c'est ce fameux mot de transition. Est-ce que, selon vous, la transition est réellement enclenchée? Où est-ce qu'on en est encore seulement à l'étape du mot?
Dans un modèle où on a une architecture, où un modèle qui est établi, qui fonctionne depuis 50 ans, le modèle, qu'est-ce qu'il fait? Il est confronté à deux forces, une force de conservation, une force d'évolution. Donc il a atteint un certain équilibre. Après, les perturbations externes, il peut en absorber une partie. Donc, il pourrait faire croire qu'il est en transition. C'est-à-dire que j'intègre les évolutions climatiques par une amélioration de la performance de mes enneigeurs pour pouvoir produire sur des périodes les plus courtes possibles.
C'est de l'optimisation.
C'est de l'optimisation. J'intègre l'enjeu énergétique en faisant de la performance énergétique de mes installations. J'intègre l'enjeu eau en retravaillant complètement mon alimentation en eau, etc. Donc le système peut absorber un certain nombre de contraintes jusqu'à ce qu'effectivement ces contraintes-là deviennent trop fortes et que c'est tout l'ensemble du système qui doit bouger. Donc si effectivement il est encore en capacité d'absorber,
d'amortir,
on ne peut pas dire qu'il soit en phase de transformation. Il est encore en phase de résistance. Donc il n'est pas en phase de transition. Donc après, est-ce qu'il a besoin du coup de rentrer en transition? Peut-être qu'il n'en a pas besoin, mais si on prend tous les critères, si on prend toutes les trois principales crises, hein, climatique, écologique et sociétale, peut-être que tout le monde est confronté à la crise des comportements sociétaux. Je ne sais pas, moi je ne connais pas toutes les stations, mais je pense que c'est un critère qui vient fortement perturber tout le système et tout le modèle touristique de montagne. Donc,
D'ailleurs, vous avez listé 10 critères pour juger si le système est encore stable. Et on mettra ces 10 critères en contenu additionnel sur le site.
Oui, oui, merci. Oui, alors c'est 10 critères que je propose au regard de l'expérience de Métabier. Parce que suite à la communication qu'on a faite, effectivement, on a été sollicité par beaucoup de territoires qui nous interrogent. Et on était presque un peu contraints de trouver des outils pour essayer de conceptualiser a posteriori ce qu'on avait fait. Alors, c'est sans doute très maladroit, c'est sans doute très partiel, ça peut être très critiquable, mais comme je vous l'ai déjà dit, on n'est pas un exemple, on est une expérience, vous prenez ce qu'il y a à prendre, quoi.
Sur ce système que vous ne qualifiez non pas de système compliqué, mais de système complexe, vous allez nous expliquer la différence importante, puisque vous êtes un scientifique, glaciologue. Donc ce système est complexe, c'est important de savoir comment il fonctionne pour comprendre comment il peut changer.
Oui, je crois que c'est effectivement une des tentations qu'on a quand on est ingénieur, quand on est dans la finance, c'est d'imaginer que chaque situation peut être compréhensible et qu'on peut analyser clairement les liens de cause à effet, alors qu'un système, comme un système de station et son territoire qui lui est lié, il y a tellement de parties prenantes avec des liens, avec une histoire, qu'on pourrait mettre toute l'expertise qu'on voudrait, qu'on ne pourrait jamais finement mécaniser ou modéliser ce système-là. Et c'est là que je dis, oui, effectivement, on arrive au bout d'un process qui vaut pour des systèmes compliqués, c'est-à-dire où on va passer du temps en ingénierie à essayer de comprendre les liens de cause à effet, mais on est plutôt dans le domaine de la complexité, c'est-à-dire qu'on va appuyer un endroit du système, mais la réponse sortira à un endroit où on n'avait pas du tout pensé que ça pouvait sortir, quoi. Et donc, si on est dans un système complexe, que je pense, la démarche, c'est pas d'essayer de réfléchir et de trouver la bonne pratique, la bonne solution, parce que on la connaît pas. Mais c'est plutôt d'agir, d'innover, de tester, de regarder comment le modèle réagit. Et s'il réagit positivement, c'est d'entériner cette pratique. Et on est plutôt dans la notion de pratique émergente. Voilà. Donc on est dans le champ de l'innovation clairement. Voilà. C'est vrai que ça vient à l'encontre un peu des process naturels qu'on met en place, diagnostic, enjeu, orientation, plan d'action, et on déroule. Ça marche pas trop quand on est dans une phase de transformation.
Dans un système complexe.
Et dans un système complexe.
Clairement, on rentre dans une zone de turbulence du système. Qui, comme vous l'avez dit, fait face à des pressions externes et internes. Donc, comment est-ce que, à votre avis, ce système va évoluer ?
Un système complexe, c'est un peu la stratégie des petits pas. Jean-François Caron, maire de Losangoël, parle de petits cailloux. Hein. On est sur cette même idée, c'est-à-dire cette notion de faire, d'avancer en faisant et d'incrémenter les choses. Alors, vous allez me dire, ouais, mais dans quelle direction on va, quoi ? Enfin, on ne peut pas partir comme ça il faut quand même tracer un chemin. Oui, le chemin se trace au fur et à mesure. Alors, on a des, un petit peu comme l'étoile polaire, et je reprends encore Jean-François Caron qui parle d'étoile, mais c'est ça, c'est cette idée-là de savoir ce vers quoi on a envie d'aller. Quand on dit ça, on n'a rien dit. Puisqu'on ne dessine pas un modèle, mais il y a quand je vous dis que quand on s'est posé la question de qu'est-ce qu'allait devenir notre montagne après le ski alpin, c'est quelque chose qui est venu de discussions entre élus, entre sociopros, de choses assez informelles finalement, où on sent qu'à un moment donné, il y a une image collective, un symbole collectif qui se dégage. C'est quelque chose de l'ordre un peu de l'intuitif et de l'inconscient collectif. Alors, je vais un peu loin là-dedans, mais qui, à un moment donné, on arrive à concrétiser. Moi, par exemple, j'ai fait un logo avec une marque qui s'appelle Haut by Montagne du Jura, et je l'ai proposé en disant, c'est peut-être ça qu'on voulait dire. Ah ouais, ça nous plaît. Bon, bah, ça veut dire qu'OK, on peut partir, c'est une base. Ça incrémente, ça remplit ce qu'un ami chercheur appelle un réservoir sémantique et symbolique. Qui est indispensable à toute transition et à toute transformation de modèle. Donc, c'est de penser systématiquement qu'on a une histoire qui est en train de se raconter. Donc, ça, c'est quand on a cet état d'esprit-là, déjà qu'on veut écrire une histoire ensemble, c'est déjà une intention qui compte énormément. Et puis, l'autre aspect qui me semble assez important, c'est de ne pas négliger ni le temps, ni les moyens qu'il faut dédier à la méthode, à l'accompagnement du process, et je parle beaucoup d'ingénierie relationnelle. On est beaucoup dans l'ingénierie de projet, l'ingénierie d'aménagement, mais l'ingénierie relationnelle, hein, tout ce qui va mobiliser la coopération, l'intelligence collective, etc., sont quand même des savoirs méthodologiques qui sont tout à fait dans le champ des possibles des ingénieurs.
On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Olivier Erard. En tout cas, je retiens cette phrase, la transformation, c'est avant tout écrire une histoire ensemble. On va peut-être rester sur cette phrase. Elle vous plaît ?
Oui, elle me plaît. J'aime bien dire que finalement, changer d'histoire, c'est changer l'histoire.
Les trois éléments forts, les trois points importants que nous avons retenus de notre conversation avec Olivier Erard, c'est que l'écosystème des stations de ski se comporte comme un système complexe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de comprendre les liens de cause à effet, mais plutôt de prototyper, d'essayer, de voir les résultats et de recommencer. Le deuxième point, c'est bien évidemment l'importance des hommes, du duo terrain, politique, et puis le fait d'intégrer en confiance tous les acteurs de la station dans le processus. Puis troisième et dernier point, l'importance de prendre position, de prendre une position forte, de fixer un objectif, une échéance, de mettre des mots dessus pour que tout le monde puisse se mettre en mouvement et se mettre au travail. Ce podcast est produit par Benjamin Blanc de la Régie des Pistes de la Vallée des Belles-Villes et Guillaume Desmures. Réalisation, Guillaume Desmures pour Murmure Studio. Mise en onde, Sébastien Pintiot pour Homework Studio. Musique, Jérémy Rassa. Diffusion, Clotilde Drouet.